marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
13h30 sur France Inter, c'est l'heure de la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
La France n'est plus catholique ?
On va le voir, on va parler carême. Tenez, je voulais faire une annonce quand même pour le troisième jour du carême. Le carême commence demain.
Oui.
À Strasbourg, ville concordataire, une émission en public et en direct, la marche de l'histoire depuis le Palais des Congrès, auditorium Schweitzer, et même trois émissions en public de France Inter, parce qu'on attend aussi François-Régis Gaudry. Et
on parle d'un festival à ce niveau.
C'est un festival organisé par Historia, et dont nous sommes partenaires. Donc vous êtes invités à la marche de l'histoire, vendredi 13h30, auditorium Schweitzer à Strasbourg. Et puis, on en vient au sujet que vous avez en effet défini, Bruno.
Oui.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Quand la France cesse-t-elle d'être catholique ?
Nous avons eu un mercredi décembre où les gens sont venus, comme d'habitude, dans nos étals. Et c'était pour nous une grande joie. Et on les a revus aujourd'hui, premier vendredi maigre du carême. Et mon Dieu, maintenant, on pourrait presque souhaiter qu'il n'y ait plus que des carèmes toute l'année.
Propos de poissonnier des années 60. Mardi gras, t'en vas pas, je fais des crêpes et t'en auras. Hélas, le lendemain, c'est immanquablement le mercredi décembre et le départ du carême. Et carême, tu jeûneras entièrement. Le commerce du poisson en tirait naguère beaucoup d'avantages, mais ce mercredi qui vient, c'est le 14 février. Autant dire que le marché sera complètement occupé par la Saint-Valentin, exit le mercredi des cendres. Et oui, il faut le dire en termes monétaires, le catholicisme ne pèse plus très lourd. Et si on parle maintenant géographie, la pratique régulière est passée sous la barre des 5%, si bien qu'on ne peut plus la représenter vraiment sur une carte. Or, cette carte, au début des années 1960, même si elle était trouée de vastes zones d'indifférence, présentait des bastions apparemment inexpugnables, et l'Église avait des raisons de professer un certain optimisme quant à son évolution. Dans ces mêmes années 60, on comptait au départ 94% de baptisés, et au bout d'une vie conçue comme montante, à la mort, les funérailles étaient quasi toujours catholiques. Que s'est-il passé en un demi-siècle ? On peut nourrir l'hypothèse qu'il s'est produit une rupture de pente brutale dans les années 1960, justement. Un effet de 68, mais le processus était engagé avant. Un effet du concile que Jean XXIII avait pourtant convoqué afin que le catholicisme se fasse entendre dans le langage du temps, mais les pays protestants comparables en Europe ont connu la même débâcle. Ce qui est le plus étonnant encore, c'est que la génération qui échoue soudain dans la transmission est emmenée par les plus brillants leaders qu'elle ait sans doute eus depuis longtemps, résistants authentiques, intellectuels reconnus, militants d'action catholique, prêtres ardents. C'est à vous faire croire que la raison ne suffit pas à expliquer l'histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Guillaume Cuchet, bonjour.
Bonjour.
Alors comment et quand la France cesse-t-elle d'être catholique ? Un titre au seuil encore plus ambitieux. Comment le monde a cessé d'être chrétien ? Un livre plein d'hypothèses inflammables, mais où vous vous présentez comme un auteur du genre modeste.
Oui, j'ai commencé par travailler dans des statistiques. Donc j'ai fait des courbes, j'ai repris les courbes d'ailleurs existantes, et je me suis aperçu effectivement du plongeon des courbes qui survenait au milieu des années 60, après le chanoine Boulard, et j'ai essayé de réfléchir sur les raisons de ce plongeon.
Le chanoine Boulard, alors voilà un homme dont vous faites un héros d'un livre.
Oui, c'est un personnage qui était pour le compte de l'épiscopat en France, le grand spécialiste des questions sociologiques et qui, dans les 20 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a piloté des enquêtes sur la pratique religieuse en France, pratique dominicale qui va à la messe le dimanche, pratique pascale qui fait ses Pâques. Et il a fait compter dans tous les diocèses de France pendant 20 ans et établi des courbes de façon extrêmement rigoureuse. Et c'est sur ces matériaux-là que j'ai travaillé, puisqu'il y a dans les archives nationales et diocésaines des dizaines de mètres linéaires de statistiques d'une austérité folle mais extraordinairement significative.
Mais c'est comme
quand
ça qu'on
regarde.
Qu'on peut calculer qu'un chrétien est réellement un chrétien ?
Oui, parce qu'il y avait une pratique qui était donnée comme sévèrement obligatoire, en conscience, sous peine de péché mortel. Et donc, selon qu'on était en règle ou pas avec les normes disciplinaires de l'Église dans ce domaine, on était considéré comme un bon ou un mauvais chrétien.
Alors, on va commencer sur ce mode punitif. Et dans un pays A, parce que pour le chanoine Boulard, vous nous expliquerez ça dans un instant, il y a des pays A, B, C. Les pays A sont très pratiquants. Ce sont de bonnes paroisses qui sont souvent tenues par, nous sommes ici en Bretagne, par des recteurs énergiques. Je ne sais pas si Alain Delon est extrêmement crédible en recteur, mais enfin on entendra Belmondo un peu plus tard dans l'émission.
En vérité, je vous le dis, il ne suffit pas de vivre dans l'ombre des puissants pour échapper à la colère du Très-Haut. Domestiques de Dieu, courbez vos fronts. Baisez la poussière et la grâce des pas de celui qui nous a tous rachetés. Faute de quoi le malin aurait pourri vos âmes jusqu'à la charogne.
On a laissé un peu long pour que vous compreniez que ce n'est pas précisément du français. C'est un disque de la collection de Martin Penney à laquelle on va faire plus d'une fois recours aujourd'hui. Un pays A, ça c'est un pays A.
Oui, alors la carte date de 1947 et Boulard distinguait trois types de pays. Le pays A, c'est un pays où au moins 45% des adultes font leur Pâques. Quand vous avez 45% des adultes, comme il y a toujours beaucoup plus d'enfants et de jeunes que d'adultes, et de femmes que d'hommes, en fait, vous avez plus de 50% de la population. Et donc, Boulard considérait que quand on était au-dessus de la barre des 45, on était en règle, au fond, avec les normes.
Mais la carte, elle est très compliquée. Même en Bretagne, il suffit, dites-vous, de faire 10 km, 20 km, et on peut passer dans un pays B, voire dans un pays C.
Voilà, le pays C, c'est 20% d'enfants non baptisés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et effectivement, les contrastes de cette carte sont formidables parce que en 30 ou 40 kilomètres, on peut littéralement changer de monde. Et dans la France du début des années 60, un dimanche ordinaire, vous pouviez avoir 100% de la paroisse à la messe dans un village du nord de la Vendée. Et 100 kilomètres plus loin, dans le Limousin, vous aviez 0%. Ça, les écarts allaient de 0 à 100.
Ce qui est 100% au Folgouët et près de 0%, je ne sais pas moi, à Scrignac, dans les Monts d'Arrée. Et puis, il y a le pays B, paroisse à tradition chrétienne, mais assez indifférente. Et il y a un pays en Europe où il y a des contrastes aussi saisissants.
Non, la France est le pays où les contrastes sont les plus importants. Nulle part ailleurs, il y a des pays aussi déchristianisés. Nulle part ailleurs, des chrétientés aussi compactes. Il faut peut-être remonter dans les îles du nord de l'Écosse pour trouver des communautés religieuses aussi compactes. Et donc, c'était le pays de tous les contrastes. Et c'était aussi pour ça que c'était le pays des expériences pastorales pilotes.
Vous avez une explication, mon père ?
Alors, c'est cette carte très mystérieuse qu'on a découverte en 1947. On l'a retrouvée et on a eu un début d'explication en étudiant l'histoire religieuse de la Révolution et la manière dont le clergé de l'époque de la Révolution s'était divisé face à ce qu'on appelle la constitution civile du clergé en 1791, qui était la pièce centrale de la politique religieuse de la Révolution. Le clergé français s'est coupé en deux et on s'est aperçu que là où le clergé d'époque avait refusé la constitution civile du clergé, se sont devenus les bons pays chrétiens du 19e et du 20e siècle, et inversement, là où ils l'avaient accepté, généralement, ça correspond au pays déchristianisé de la France contemporaine.
Alors, continuons les observations qui sont celles notamment du chanoine Boulard. La pratique dépend aussi d'une stratégie pensée et que vous nommez la remontée générationnelle. Alors, explication avec deux exemples sonores. D'abord, il y a l'enfance. Il y avait une œuvre qui s'appelait l'œuvre de la Sainte Enfance. L'enfance, elle est catéchisée. Un extrait du film de Bresson, le journal d'un curé de campagne.
Et toi ?
De recevoir
Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Et qu'a-t-il fait pour instituer le sacrement de l'Eucharistie ?
Instituer le sacrement de l'Eucharistie, Jésus prit du pain, le rompit, le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit du vin et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. »
La leçon est terminée. Séraphita viendra chercher un bon point.
Alors, quelques années de catéchisme, la première communion, et puis une grande recharge sacrale, qui est aussi un événement social de première importance, naguère, c'est la communion solennelle. Ce document, je vous dirai d'où il vient après, mais il pourrait venir de n'importe quelle paroisse A, de France ou d'outre-mer. C'est un film familial commenté après coup par une chaîne de télévision.
Alors, comme d'habitude, les garçons sortaient premiers, seront suivis des filles. Et cette fois-ci, ils défilent suffisamment lentement. J'espère que beaucoup se reconnaîtront. Monsieur Morazé, au premier plan. Et puis, comme dans toutes ces sorties de communion, chacun se cherche. On a perdu les enfants, en général. Et puis, une famille où il y a deux communiants, deux cousins germains. Les deux sœurs marient respectivement leur fils, ici à gauche, et puis à droite. Voilà, la communiante. Et monsieur Angar, il s'agit de la famille Angar qui photographie le photographe, la petite sœur. Dans cette foule, toutes les dames ont des petits bibis, des petits chapeaux de toilette, pas toujours très grands, comme celui que vous allez voir apparaître à droite. Là, vous voyez la grande capeline, ça, c'est quand même, ça devait quand même être plutôt extraordinaire. Et puis toujours ces manteaux rouges sur lesquels je vous ai déjà attiré l'attention, car c'était vraiment une couleur qui plaisait.
Ça vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, communauté fervente. Ce qui est drôle, c'est qu'il est parlé de Monsieur Morazé, qui était au premier plan, et que la légende là-bas présente comme le plus grand fraudeur de l'époque de la Prohibition, et comme un copain d'Al Capone. Mais peu importe, l'important, ce sont les habits, on se met en fête, le communiant, la communiante sont en blanc.
Oui, c'était le cycle de la pratique par âge. La pratique était obligatoire à partir de 7 ans, c'était l'âge de raison. Et en gros, tout le monde voulant la communion solennelle qui avait été fixée à 12 ans, on avait 3 ans de catéchisme de 9 à 12, avec messe obligatoire pendant les 3 ans, dûment poinçonnée sur carte spéciale. Et vous aviez à peu près 80 ou 85% de la génération à la communion solennelle. Et le dimanche d'après la communion solennelle, commençait une grande dégringolade. Et là, on perdait à peu près 50 ou 55% de ce troupeau réuni à 12 ans. Et la génération fixait ses positions religieuses 3 crans au-dessous, à 25%, en gros, vers 21 ans.
Oui, mais il y avait quand même une vitesse acquise qui permettait, sur le tard, une remontée.
L'idée,
vie montante.
Comme on avait la génération pendant 3 ans, entre 9 et 12, on lui injectait une dose de religion suffisamment puissante, étant bien conscient qu'ensuite elle allait vivre sur son capital jusqu'à 60 ou 65 ans. Et l'idée était qu'il en reste suffisamment à la sortie pour qu'il se reconnaisse, comme on disait, et soit revienne à la religion sur la fin, soit en tout cas puisse avoir des obsèques religieuses. Et on retrouvait le taux de 80 ou 85% aux obsèques religieuses au décès.
Votre hypothèse, c'est qu'un grand changement, une rupture de pente se produit dans les années 1960. Le chanoine Boulard, il vit jusqu'en 1977. Il s'est aperçu du décrochage ?
Oui, il s'en est aperçu, parce qu'il avait des correspondants dans tous les diocèses, donc c'était l'homme le mieux informé de France pour ce qui était de la pratique religieuse. Et à partir des années 67-68, ses correspondants lui écrivent, très alarmés, en lui disant « Écoutez, on a pensé jusque-là, au terme de 20 ans d'études, que ça bougeait jamais, que c'était stabilisé dans la longue durée, qu'il n'y avait pas d'événement dans cette histoire. » Et voilà que les courbes plongent, et ça lui arrivait de tous les diocèses.
Il y a les cours de pratique, et puis il y a le cours du poisson. Parce qu'on oui, l'entendait aussi, tout à l'heure, les ça, poissonniers demandaient des mercredis décembre 1967, tout d'un coup.
Oui, le 1er janvier 1967, le maigre du vendredi a cessé d'être obligatoire et les poissonniers ont perdu 30% d'un coup du marché, qu'ils ont retrouvé au carême suivant, puisque pendant le carême, à nouveau, le maigre était obligatoire. Et donc, c'est très spectaculaire parce qu'on voit très bien comment le clergé, au sortir du concile, a un peu scié la branche sur laquelle il était assis dans ce domaine.
Les normes. Alors, attendez, vous commencez à poser des hypothèses inflammables, voire des jugements de valeur, Guillaume Cuchet. Alors, vous mettez en cause le concile dont, dans l'Église catholique aujourd'hui, on dit qu'il faut le laisser sanctuariser, parce que si on se met à poser des questions sur ses effets, on fait le jeu des intégristes. Alors je vous propose qu'on prenne un peu point par point le Concile 62, 65, Jean 23, Paul VI, vous parliez de la décision concernant le jeûne, mais dans les autres autrement importante, celle qui a peut-être le plus frappé le public, c'est le changement liturgique, la désignation de la messe comme une assemblée participative dans laquelle on est passé massivement du latin, encore un paternoster de la collection Penet, au français, gloire à Dieu. un livre de Guillaume Cuchet aux éditions du Seuil, dont j'ai un peu changé le titre. La France cesserait-elle d'être catholique dans les années 1960, mais justement au moment où la liturgie cherche à être accessible, à rejoindre le langage du temps?
Et ce qui est frappant dans ces statistiques, effectivement, c'est que pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt en 68 que les courbes avaient plongé, et chacun avait un peu son explication fétiche dans ce domaine. Les catholiques de droite pensaient que c'était la faute à mai 68, les catholiques de gauche que c'était la faute à l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI sur la contraception qui avait suscité une crise carabinée dans le milieu catholique, et de fait, l'un et l'autre ont joué un rôle très important. Mais ce que montrent ces statistiques, et ce qui est un peu nouveau, je crois, c'est qu'effectivement, en fait, il y a deux ruptures. Il y en a une première qui a précédé 68 et qui est survenu au milieu des années 60, que Boulard a vu, qu'il a pu établir et qui du coup pousse à regarder du côté du Concile, puisque ça coïncide en tout cas avec la fin du Concile et en particulier avec cette fameuse réforme liturgique dont on vient d'entendre parler, dont le texte a été adopté dès décembre 63 et qui est entré en application dès janvier 64, c'est-à-dire qu'on est entré dans un cycle de transformation très profonde qui a duré 10 ou 15 ans. Et évidemment, le rapport de cause à effet entre la modification liturgique et la partie la plus sensible de la religion, celle qui concerne le plus de monde, celle que tout le monde voit, les débats très techniques du Concile, ça n'intéresse que les théologiens, mais la liturgie, ça rejoint tout le monde. Et donc, Boulard a cherché à réfléchir un peu à reculons, très embarrassé de découvrir cette coïncidence chronologique signalée depuis longtemps par les intégristes et les traditionalistes qui ont tout de suite planté leur drapeau noir sur cette coïncidence. C'est la raison aussi pour laquelle, dans l'Église officielle, on a mis si longtemps à voir cette coïncidence et à chercher à les penser dans des termes différents de ceux de la polémique intégriste.
Oui, mais il ne s'agit pas seulement de la liturgie, mais de l'obligation peut-être moins stricte, encore que rien n'est dit de clair là-dessus, dans le Concile, de participer à la liturgie du dimanche. Il y a un texte quand même, vous dites des textes techniques, il y a un texte fondamental qui a eu beaucoup d'écho, c'est le texte sur la liberté religieuse, au bout duquel, grosso modo, le catholique pouvait penser que il était plus proche quand lui-même cherchait, creusait, du protestant qui creusait, du juif qui creusait, que du catholique d'habitude, que du catholique d'identité acquise.
Oui, c'est un des textes qui a fait couler le plus d'encre au Concile parce qu'il avait l'air de contredire ce que certains papes du XIXe siècle avaient dit de façon très formelle sur la liberté de conscience et qui a eu effectivement des conséquences importantes mais difficiles à évaluer et difficiles à tracer, en partie à mon avis parce que la liberté de conscience existait déjà en France et dans les pays d'Europe du Nord-Ouest, donc le débat était crucial sur le fond mais n'avait pas tellement d'incidence pratique, de sorte que le texte s'est appliqué un peu là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire dans les obligations de la conscience chrétienne, qui tout à coup a considéré qu'elle avait beaucoup plus de marge de manœuvre et de capacité de faire le tri d'une certaine façon dans les pratiques et les dogmes, et ça a un peu désarticulé, si vous voulez, cette religion traditionnelle qui prévalait jusque-là.
Un chapitre entier est consacré au sacrement de pénitence. Qu'est-ce vont demander certains de nos auditeurs, ce qu'on appelait la confession, c'est dans l'étrange boîte de bois. Alors certains de nos auditeurs attendent Belmondo. Le voici maintenant. Il est avec Emmanuel Rivas, c'est ce chef-d'œuvre de Melville, Léon Morin, prêtre, face à face, entretien à la fois exigeant et bienveillant.
Pourquoi êtes-vous si impressionné?
Par vanité.
Ça va passer, vous allez voir. C'est rien du tout.
Seigneur, éclairez ma conscience afin que je discerne tout ce qui vous a offensé.
Et que je l'expie par une humble confession.
Il faut absolument que je répète ça.
Oui, mais prenez votre temps, rien ne presse.
Et que je l'expie
par une humble confession.
Par une humble confession, une sincère contrition, une vraie pénitence.
Vos mains sont toujours pures, n'est-ce pas?
Non. Non, mon père.
Le corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas avoir pour lui le plus grand respect. Est-ce que vous êtes gentil au bureau?
Les autres me détestent parce que je me suis convertie.
Et vous, vous les aimez?
Ils n'y arrivent pas. Dieu, s'il existe, je l'adore parce qu'il est parfait et tout-puissant. Mais elle...
Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas ses frères est un menteur. C'est dans Saint Jean. Pour ces fonds, je vous dirai simplement une fois... Mon Dieu, faites que j'aime mon prochain comme moi-même par amour pour vous.
Bah, Belmondo en prêtre, c'est plus juste que Alain Delon, mais enfin, c'était une parenthèse. Guillaume Cuchet, c'est le sacrement de pénitence, la confession qui, dans le jeu de domino, part le premier.
En tout cas, c'était un sacrement très chronophage pour les prêtres, ça les retenait beaucoup, puisque c'était une confession, c'était un sacrement de masse, et en particulier, il y avait dans le catholicisme français à peu près 15% des gens qui se confessaient au moins une fois par mois. C'est-à-dire que c'était vraiment...
Ça, c'est le noyau dur.
Le noyau dur, très compact. Et effectivement, ce qui est absolument spectaculaire dans les statistiques, c'est que ces 15% de catholiques se confessant une fois par mois disparaissent des tableaux, des radars, en quelques années, entre 65 et 70, en gros. Et on passe quasiment de 15-20% à 1%. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'explosion nucléaire liée à toute une série de raisons que j'ai essayé d'analyser, d'une combinaison de facteurs, mais qui est vraiment peut-être l'aspect le plus spectaculaire de ce plongeon des courbes. En particulier parce qu'on se confessait pour diverses raisons, mais notamment parce que pour des raisons liées au péché mortel, à l'idée que si on finissait son existence avec un péché mortel sur la conscience, sa destination dans l'au-delà ne pourrait pas être la bonne. Donc il y avait toutes sortes de préoccupations de ce type qui maintenaient un taux très élevé.
Mais plutôt que d'erreurs pastorales, est-ce qu'il ne faut pas considérer d'abord, Guillaume Cuchet, les grands mouvements de fond que vous êtes en train d'identifier? Vous avez parlé de la montée inéluctable de la liberté de conscience, et puis vous parlez de l'individuation, et vous parlez du refus grandissant de l'idée de culpabilité, de la culpabilisation.
Oui, ça coïncide un peu aussi avec la grande mode de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de campagne de déculpabilisation massive qui se déploie dans la culture de l'époque, un peu comme une campagne de dératisation. Et la confession traditionnelle, qui reposait sur cette idée de péché mortel, a évidemment beaucoup souffert de la mise en cause de l'idée même de péché, l'idée qu'au fond, qu'on puisse... avoir à prendre conscience de son péché et à proportionner sa culpabilité à la nature de son péché, tout ce qui était une sorte d'évidence collective jusqu'alors, a très mal vécu le bouleversement culturel des années 60.
Alors que la psychanalyse a beaucoup à voir avec le confessionnal, et que quand la culture catholique finit par s'effacer, c'est la culture psychanalytique qui, à son tour, est touchée.
Oui, exactement. Ça, je pense que la psychanalyse a fonctionné comme une sorte de sas de sortie qui s'est étalée sur 20 ou 30 ans, et elle est en train de vivre la sécularisation de la sécularisation, c'est-à-dire la perte de sa clientèle.
Gardons l'idée de sas de sortie. Il y aura beaucoup de débats sur votre livre, mais il y a un débat posé depuis longtemps. Est-ce que le christianisme n'est pas la meilleure religion pour sortir de la religion? Vous mettez en cause le quand même une stratégie qui est orientée surtout sur les militants. Et Dieu sait s'il y avait des militants à cette époque dans l'action catholique. Il y avait des grands commis de l'État qui venaient du catholicisme. Et les humbles, demandez-vous. Alors je vous propose d'écouter un dernier écho sonore. L'apostrophe, le Vendredi Saint, était toujours consacré à un sujet religieux. C'était un rituel obligé. Et Bernard Pivot recevait en 76 Serge Bonnet, dominicain, grand sociologue par ailleurs, et qui avait eu l'idée de recueillir les intentions de prière que les humbles confiaient au livre ouvert réservé à cet effet au bas des nefs.
Alors on comprend très bien que quand on appartient à un certain milieu, on ne va quand même pas confier ce qu'on a de plus secret, ce qui vous tient le plus à cœur sur un cahier, sur un modeste cahier dans le fond d'une église. Si bien que ce sont, je pense, surtout des chrétiens de milieux très modestes qui écrivent dans ces cahiers.
Bon, je crois que le plus simple, c'est de le citer. Il y a des choses vraiment très émouvantes. Par exemple, une mère, Sainte Vierge, sauvez-moi de l'alcool. Faites, je vous en supplie, que je ne boive plus. J'ai 3 enfants que j'aime plus que moi-même. Merci. Oh, merci, j'ai confiance. Et là, une autre est tout à fait étonnante, c'est Notre-Dame de la Salette, redonnez-moi du travail afin que je puisse vivre décemment, merci. Et en dessous de cette prière, une autre personne a écrit: Notre-Dame, je vous offre ma solitude, ma maladie, ma souffrance morale de cette journée pour que vous donniez du travail à celui qui vous en demande dans une prière avant la mienne, exaucez-le, merci. Autre très émouvante, Notre-Dame de la Salette, aidez-moi à ne plus l'aimer. Je trouve que c'est un cri assez bouleversant. Puis alors, il y en a évidemment de fort cocasses. Alors, citerai nouveau.
Lesquels vous avez retenu parmi les fort cocasses?
C'est vous qui avez fait le choix. Hein.
Oui, mais celles qui vous ont frappé.
Par exemple, faites que je trouve enfin un amant, merci. Puis il y en a deux qui sont deux prières à Saint-Joseph qui me pèsent beaucoup. Saint-Joseph, gardez-moi ma femme, ne me la faites pas faucher par un malotru. Ça, c'est très joli. Et puis, alors celle-ci, à mon avis, à laquelle je donnerai l'Oscar. Saint-Joseph, faites que je ne sois pas enceinte.
prière secrète aux éditeurs, réédité Serge Bonnet, qui disait, grosso modo, il y en a assez de tous ces tracts sociaux de l'église polycopiante, vous savez, qui est René Hoth sur son stencil. Écoutons aussi ce qui est là dans le silence et qui a été recouvert. C'était ça, l'idée de Serge Bonnet. Les humbles, redonnant leur place aux humbles.
Au fond, ce qu'il a un peu exaspéré, c'était un grand sociologue, c'était l'idée que tout à coup, on se retournait contre la tradition catholique, qui était elle-même le fruit d'une pastorale séculaire, qui avait eu des résultats pas si modestes, puisqu'elle avait réussi à maintenir des taux relativement élevés, et qu'on considérait comme purement sociologique ce qui était le produit de cette histoire. Considéré comme un vulgaire produit sociologique, le produit d'une tradition pastorale très ancienne, qui avait finalement créé un fait social chrétien, à l'intérieur duquel le peuple, les masses populaires, pouvaient vivre leur vie spirituelle, qui était une vie spirituelle à la fois fragile parce que tenant à beaucoup d'égards au cadre, et en même temps puissante et profonde, comme on l'a entendu encore dans la lecture de ces petits textes. Et il y a là une sorte de mécompréhension, de malentendu sur ce qu'est une tradition religieuse comme produit de l'histoire, et l'idée qu'elle était superficielle finalement, alors qu'en réalité, elle était à la fois fragile et profonde.
Mais elle peut s'effacer, ou du moins, tout ne se fait pas sur le mécanisme de la soustraction, mais aussi sur le mécanisme de l'addition, avec addition d'autres traditions agglomérées à celles qui peuvent subsister du catholicisme. Alors, comment le monde cesse d'être chrétien, c'est le livre que vous publiez au Seuil, et dans la revue Études de février, vous racontez, on pourrait finir ainsi, une cérémonie de funérailles au cœur de l'Ardèche, à laquelle vous avez participé il y a peu, une jeune femme de 40 ans, un compagnon qu'elle laisse et un enfant de 12 ans.
Oui, c'est une cérémonie qui m'a paru très révélatrice du changement de mœurs funéraires que nous sommes en train de vivre, parce qu'il y avait à la fois des éléments de tradition, tout un village réuni, beaucoup d'émotions, parce que c'était un décès prématuré, une messe, un prêtre, qui n'est plus toujours le cas d'avoir des prêtres aux messes de funérailles. Et en même temps, cette jeune femme, à l'issue de la messe, son corps est parti au crématorium local, alors qu'on est au fin dans les montagnes ardéchoises, c'est bien le dernier endroit où l'on penserait que ce type de modernité puisse parvenir. Et on voit très bien,
Vous avez l'oreille dressée, vous entendez depuis l'embon, depuis le cœur, un ami de la morte. Et c'est lui qui, au fond, fait le prêche, et que c'est qui?
Il y a effectivement un employeur local qui tient un centre de méditation bouddhiste et qui est parti dans une envolée lyrique sur la réincarnation probable de cette jeune femme qui reviendrait dans les vertes prairies de son enfance. C'était complètement surréaliste et on se demandait si le prêtre lui-même, d'ailleurs, avait bien saisi de quoi il s'agissait. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est ce cadre catholique maintenu dans lequel des éléments nouveaux étaient entrés, la crémation, un bouddhisme diffus qui correspond à la demande spirituelle contemporaine d'une partie de nos contemporains, et cette idée que finalement, en matière funéraire, nous additionnons les traditions plus que nous les remplaçons, en tout cas que nous sommes dans un temps de transition où il y a à la fois des restes du monde d'hier et déjà ce qui pourra peut-être se généraliser demain, et qu'on vit cette transition. Voilà, de façon relativement harmonieuse, finalement. Ça n'a pas l'air de choquer personne, en tout cas, et ça fonctionnait relativement bien dans le cas en question.
Comment le monde a cessé d'être chrétien, Guillaume Cuchet, aux éditions du Seuil. L'émission était préparée par Franck Olivard et Nimka Negulesco, Frédéric Martin, la technique Nicolas Delmas, la réalisation Audrey Ripouille.